Chapitre 4. Retour au terrier. Le lendemain, vers midi, Harry avait fini d'entasser dans sa grosse valise ses affaires d'école et les objets personnels auxquels il tenait le plus. La cape d'invisibilité qu'il avait héritée de son père, le balai volant que lui avait offert Sirius, la carte magique de Poudlard dont Fred et George Weasley lui avaient fait cadeau l'année précédente. Il avait vidé sa cachette sous la lame de parquet, vérifié soigneusement chaque recoin de sa chambre pour être sûr de ne pas y oublier une plume ou un grimoire et avait ôté du mur le calendrier sur lequel il barrait les jours qui le séparaient de son retour à Poudlard. L'atmosphère qui régnait aux 4 Private Drive était extrêmement tendue. L'arrivée imminente dans la maison d'une famille de sorciers rendait les Dursley nerveux et irritables. L'oncle Vernon avait paru très inquiet lorsque Harry l'avait informé que les Weasley viendraient le chercher à 5 heures le lendemain après-midi. « J'espère que tu leur as dit de s'habiller convenablement à ces gens, » avait-il aussitôt grommelé d'un air méprisant. « J'ai vu le genre de choses que vous portez, vous autres. La moindre décence consisterait à mettre des vêtements normaux. » Harry avait un vague pressentiment. Il avait rarement vu les Weasley porter quelque chose que les Dursley avaient pu trouver normal. Leurs enfants mettaient parfois des vêtements de moldu pendant les vacances, mais M. et Mme Weasley portaient généralement de longues robes de sorciers plus ou moins élimées. Harry ne se souciait guère de l'opinion des voisins, mais il s'inquiétait de la grossièreté dont les Dursley pourraient faire preuve à l'égard des Weasley si ces derniers ressemblaient trop à l'idée qu'ils se faisaient des sorciers. L'oncle Vernon avait revêtu son plus beau costume. Certains auraient pu voir là un geste de bienvenue, mais Harry savait que c'était seulement parce qu'il voulait paraître impressionnant, intimidant même. Dudley, lui, semblait plutôt diminué, non pas en raison de son régime, qui n'avait encore aucun effet, mais par la peur. Sa dernière rencontre avec un sorcier lui avait valu de se retrouver affublé d'une queue de cochon en tire-bouchon qui dépassait de son pantalon, et ses parents avaient dû l'emmener dans une clinique privée de Londres pour la faire enlever à grands frais. Il n'était donc pas surprenant de voir Dudley passer fébrilement la main dans son dos en marchant de côté afin de ne pas présenter la même cible à l'ennemi. Le déjeuner se déroula dans un silence quasi complet. Dudley ne protesta même pas contre la composition du menu, fromage blanc et céleri râpé. La tante Pétunia ne mangea rien du tout, elle avait les bras croisés, les lèvres pincées, et semblait mâchonner sa langue comme si elle s'efforçait de retenir la furieuse diatribe qu'elle brûlait de prononcer contre Harry. « Ils vont venir en voiture, bien entendu, hein ?» aboya l'oncle Vernon assis de l'autre côté de la table. « dit Harry. Il ne s'était pas posé la question. Comment les Weasley allaient-ils venir le chercher ? Il n'avait plus de voiture, la vieille Ford Anglia qu'il possédait était retournée à l'état sauvage dans la forêt interdite de Poudlard. L'année dernière, cependant, M. Weasley avait emprunté une voiture au ministère de la Magie. Peut-être allait-il faire la même chose aujourd'hui. « Je pense, oui, » répondit enfin Harry. L'oncle Vernon renifla d'un air méprisant. Normalement, il aurait dû demander quelle était la marque de la voiture de M. Weasley. Il avait tendance à juger les autres d'après la taille et le prix de leur voiture. Mais Harry doutait que l'oncle Vernon puisse jamais éprouver de la sympathie pour M. Weasley, même si celui-ci avait roulé en Ferrari. Harry passa la plus grande partie de l'après-midi dans sa chambre. Il ne supportait pas de voir la tante Pétunia regarder à travers les rideaux toutes les 30 secondes, comme si on avait signalé qu'un rhinocéros échappé du zoo se promenait dans les parages. Enfin, à 5h15, il redescendit dans le salon. La tante Pétunia tapotait machinalement les coussins. L'oncle Vernon faisait semblant de lire le journal, mais ses yeux minuscules restaient immobiles et Harry était persuadé qu'il guettait le moindre bruit de moteur en provenance de la rue. Dudley s'était tassé dans un fauteuil, assis sur ses petites mains dodues fermement serrées sur son derrière. La tension qui régnait dans la pièce devenait insupportable. Harry préféra sortir dans l'entrée et s'asseoir sur les marches de l'escalier, les yeux fixés sur sa montre. Le cœur battant. 5 heures sonnèrent, puis les minutes passèrent. L'oncle Vernon, transpirant légèrement dans son costume trop chaud, alla ouvrir la porte, regarda des deux côtés de la rue, puis rentra vivement la tête.
« Ils sont en retard !»
lança-t-il à Harry. « Je sais, » répondit Harry. « Peut-être qu'il y avait de la circulation. » 5h10, 5h15... Harry aussi commençait à être inquiet. À la demi, Il entendit l'oncle Vernon et la tante Pétunia marmonner quelques remarques lapidaires.
« Aucune considération pour les autres.
Nous aurions pu avoir quelque chose à faire tout de suite après.
Hein? Ils pensent peut-être que s'ils arrivent suffisamment tard, on les invitera à dîner, non ?»«
Il manquerait plus que ça !» s'indigna l'oncle Vernon.
Harry l'entendit se lever et faire les 100 pas dans le salon.
« Ils emmènent ce garçon et ils s'en vont. Pas question de les laisser traîner dans la maison. Si toutefois ils viennent, ils se sont probablement trompés de jour. On peut dire que la ponctualité n'est pas une valeur essentielle chez ces gens-là. Hein. Ou peut-être qu'ils roulent dans un vieux tas de ferraille qui est tombé en panne. Ah !
Harry se leva d'un bond. De l'autre côté de la porte du salon, il entendit les trois Dursley, pris de panique, se précipiter à l'autre bout de la pièce. Un instant plus tard, Dudley surgit dans l'entrée, l'air terrifié. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'inquiéta Harry. Mais Dudley semblait incapable de parler, les mains toujours crispées sur ses fesses. Il se dandina aussi vite que possible vers la cuisine, pendant que Harry se ruait dans le salon. Des coups frappés contre le mur et des raclements sonores s'élevaient dans la cheminée que les Dursley avaient condamnée et devant laquelle ils avaient installé un faux feu de bois électrique.
« Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est ?»
balbutia la tante Pétunia, le dos plaqué contre le mur, son regard épouvanté fixé sur le faux feu.
« Qu'est-ce qui se passe, Vernon ?»
La réponse ne se fit guère attendre. Un instant plus tard, des voix retentirent à l'intérieur de la cheminée.
« Aïe, Fred, non, recule, quoi, recule, il y a une erreur quelque part. Dis à Georges de ne pas... Aïe, bah si, Georges, non, on n'a pas assez de place. Retourne vite dire à Ron...
Peut-être que Harry nous entend, papa, peut-être qu'il va pouvoir nous faire sortir d'ici. » Il y eut un martèlement assourdissant sur les planches qui masquaient la cheminée derrière le feu de bois électrique. « Harry, tu nous entends ?» D'un même mouvement, les Dursley se tournèrent vers Harry comme un couple de belettes furieuses.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» gronda l'oncle Vernon. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Ils ont voulu venir avec de la poudre de cheminette, répondit Harry en réprimant un fou rire. Ils peuvent se déplacer d'une cheminée à l'autre grâce à un feu spécial, mais comme la vôtre est condamnée, ils n'arrivent plus à sortir. Voilà. Attendez. Il s'approcha de la cheminée et appela. Monsieur Wesley, vous m'entendez? Le martèlement cessa. À l'intérieur, quelqu'un fit chut. Monsieur Wesley, c'est Harry. La cheminée a été condamnée. Vous n'allez pas pouvoir passer par ici.
Allons bon, dit la voix de Monsieur Wesley.
Pourquoi donc ont-ils condamné cette cheminée?
Ils préfèrent les feux électriques, expliqua Harry.
Vraiment? Dit la voix de Monsieur Wesley, soudain intéressé. Comment tu dis? Éclectique? Avec une prise? Il faut absolument que je vois ça. Voyons, réfléchissons. Ron.
La voix de Ron se joignit aux autres.
Qu'est-ce qu'on fait tous là? Y a quelque chose qui va pas?
Mais si, tout va très bien, Ron, dit la voix de Fred d'un ton sarcastique. On n'aurait pas pu rêver mieux.
Oui, on s'amuse comme des petits fous,
dit Georges d'une voix complètement étouffée, comme s'il était écrasé contre le mur. Allons, dit Monsieur Wesley d'un ton indécis. J'essaie de trouver un moyen. Hein? Ah, oui. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Recule-toi, Harry. Harry battit en retraite en direction du canapé. L'oncle Vernon, en revanche, s'avança.
« Attendez un peu » s'écria-t-il en parlant au faux feu. « Qu'est-ce que vous avez l'intention de... » Bang !
Le feu électrique vola à travers la pièce, soufflé par l'explosion de la cheminée. Monsieur Wesley, Fred, George et Ron surgirent alors au milieu d'un nuage de débris divers. La tante Pétunia poussa un hurlement suraigu et tomba par-dessus la table basse. L'oncle Vernon la rattrapa avant qu'elle ne heurte le sol et regarda bouche bée les Wesley, qui arboraient tous une chevelure d'un roux vif. Fred et Georges, les jumeaux, étaient parfaitement identiques, jusqu'à la moindre tache de son.
« Ça va mieux !» dit Monsieur Wesley d'un ton haletant. Il épousta d'un revers de main sa longue robe verte et redressa ses lunettes sur son nez.
« Ah, vous devez être l'oncle et la tante de Harry !»
Grand, mince, le front dégarni, M. Wesley s'avança, la main tendue vers l'oncle Vernon, mais celui-ci recula de plusieurs pas, entraînant avec lui la tante Pétunia. L'oncle Vernon était incapable de prononcer un mot. Son plus beau costume était couvert d'une poussière blanche qui s'était également répandue sur sa moustache et dans ses cheveux. Il avait l'air d'avoir brusquement vieilli de 30 ans.
« Oh, oui, Désolé pour tout ce dérangement, dit M. Wesley, qui laissa retomber sa main en jetant un coup d'œil vers la cheminée dévastée.
C'est entièrement ma faute. Je n'avais pas pensé que nous ne pourrions pas sortir une fois arrivés à destination. Figurez-vous que j'ai fait connecter votre cheminée au réseau de la poutre de cheminette. Oui, bien sûr, c'était simplement pour l'après-midi, afin que nous puissions venir chercher Harry. Normalement, les cheminées de Moldu ne doivent pas être connectées, mais je connais quelqu'un au service de régulation des déplacements par cheminée qui m'a arrangé ça pour me rendre service. Je remettrai tout en ordre en un clin d'œil, ne vous inquiétez pas. Je vais allumer un feu pour renvoyer les garçons à la maison et ensuite je réparerai la cheminée avant de transplaner moi-même. Harry était prêt à parier que les Dursley n'avaient pas compris un mot de ce qu'il venait de dire. Il continuait de regarder M. Wesley bouche bée comme frappé par la foudre. La tante Pétunia se redressa tant bien que mal et se cacha derrière l'oncle Vernon.
« Bonjour, Harry !» dit M. Wesley avec un sourire rayonnant. « Tes bagages sont prêts ?»«
Tout est là-haut !» répondit Harry en lui rendant son sourire. « On va s'en occuper, » dit aussitôt Fred. Adressant un clin d'œil à Harry, il sortit du salon en compagnie de George. Il savait où se trouvait sa chambre pour l'avoir un jour aidé à s'échapper en pleine nuit. Harry soupçonnait Fred et George d'avoir envie de jeter un coup d'œil à Dudley. Il leur en avait souvent parlé.
« Voilà, 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 voilà !» lança M. Wesley d'un ton un peu gêné. Il balança légèrement les bras en cherchant quelque chose à dire pour essayer de rompre le silence de plus en plus pesant.
« C'est très charmant chez vous, oui. »
En voyant leur salon habituellement immaculé recouvert de poussière et de morceaux de briques, les Dursley ne furent guère sensibles à sa remarque. Le visage de l'oncle Vernon redevint violacé et la tante Pétunia recommença à mâchonner sa langue. Mais il semblait trop effrayé pour oser dire quoi que ce soit. Monsieur Wesley regardait autour de lui. Il avait toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour les inventions des Moldus, et Harry sentait qu'il brûlait d'envie d'aller examiner de près le poste de télévision et le magnétoscope.
« Ça marche à l'électricité, n'est-ce pas ? » dit-il d'un ton d'expert. « Ah oui, 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 je vois les prises. Je fais moi-même collection de prises. Et de piles. Une très belle collection de piles. Et oui, oui, oui. Ma femme pense que je suis fou, mais voilà bien la preuve du contraire. Hein.
L'oncle Vernon paraissait lui aussi clairement convaincu que M. Wesley était fou. Il se glissa légèrement vers la droite, cachant la tante Pétunia derrière lui, comme s'il avait peur que M. Wesley se précipite soudain sur eux pour les attaquer. Dudley réapparut soudain dans la pièce. Harry entendit le son de sa grosse valise qu'on traînait dans l'escalier et il comprit que c'était ce bruit qui avait fait peur à Dudley et l'avait chassé de la cuisine. Dudley longea le mur, observant M. Wesley d'un regard terrifié et s'efforça de se cacher derrière son père et sa mère. Mais le corps massif de l'oncle Vernon, suffisant pour dissimuler la tante Pétunia, n'était quand même pas assez volumineux pour cacher Dudley.
« Ah bah, voilà ton cousin, c'est bien ça, Harry ?»
dit M. Wesley en essayant courageusement de relancer la conversation.
« Ouais, » répondit Harry, « c'est Dudley. »
Ron et lui échangèrent un regard, puis détournèrent les yeux pour échapper à la tentation d'éclater de rire. Dudley se tenait toujours le derrière, comme s'il avait peur qu'il se détache de son corps et tombe par terre. M. Wesley paraissait s'inquiéter de son comportement.
« Tu passes de bonnes vacances, Dudley, hein ?» demanda-t-il avec douceur.
À en juger par le ton de sa voix, Harry se doutait que, aux yeux de M. Wesley, Dudley devait sembler aussi fou que lui-même le paraissait aux Dursley, à la différence que M. Wesley éprouvait pour lui de la compassion plutôt que de la peur. En l'entendant s'adresser à lui, Dudley laissa échapper un gémissement et Harry vit ses mains se serrer encore davantage sur son énorme postérieur. Fred et George revinrent dans la pièce en portant la grosse valise de Harry, et leur regard se posa aussitôt sur Dudley. Le même sourire malicieux apparut alors sur leur visage.
« Voilà, parfait, je crois que nous ferions bien d'y aller, » dit M. Wesley.
Il retroussa les manches de sa robe de sorcier et sortit sa baguette magique. Harry vit les trois Dursley reculer d'un même mouvement vers le mur du fond.
« Incendio !»
s'exclama M. Wesley en pointant sa baguette vers le trou dans le mur. Des flammes s'élevèrent aussitôt dans la cheminée en craquant allègrement, comme si le feu brûlait depuis des heures. M. Wesley sortit de sa poche un petit sac fermé par un cordon, l'ouvrit, retira une pincée de poudre et la jeta dans les flammes qui prirent une teinte vert émeraude en ronflant de plus belle.
« Vas-y, Fred !» dit M. Wesley.
« J'arrive !» répondit Fred. « Oh non, attends !»
un sac de bonbons venait de tomber de sa poche en répandant son contenu par terre. De grosses et appétissantes pralines enveloppées de papier aux couleurs vives. Fred se précipita pour les ramasser et les remettre dans sa poche, puis, l'air enjoué, il adressa un signe de la main au Dursley et s'avança dans les flammes en annonçant « Le terrier !» La tante Pétunia parcourut d'un frisson, étouffa une exclamation apeurée. Il y eut un bruit de bourrasque. Et Fred disparut.
« À toi, George !» dit M. Wesley. « Vas-y, vas-y avec la valise !»
Harry aida George à porter sa valise dans les flammes et à la mettre debout pour qu'il puisse la tenir plus facilement. Puis, après s'être écrié « Le terrier !», George disparut à son tour dans le même bruit de bourrasque.
« Ron, à toi maintenant !» dit M. Wesley.
« À bientôt !» lança Ron au Dursley d'un ton joyeux. Il adressa un large sourire à Harry, puis s'avança dans le feu qui continuait de brûler et cria « Le terrier !» avant de disparaître, comme ses frères. Il ne restait plus à présent que Harry et M. Wesley. « Bon, eh bien, au revoir !» dit Harry au Dursley. Ils restèrent silencieux et Harry s'approcha des flammes. Mais au moment où il arrivait devant l'âtre, M. Wesley tendit la main et le retint par l'épaule. Il regardait les Dursley d'un air stupéfait.
« Harry vous a dit au revoir, » fit-il remarquer. « Vous n'avez pas entendu. »«
Hum ?»« Ça ne fait rien, » murmura Harry à M. Wesley. « Sincèrement, ça m'est égal. »
Mais M. Wesley ne lâcha pas l'épaule de Harry.
« Vous n'allez plus voir votre neveu jusqu'à l'été prochain. Vous ne pouvez quand même pas le laisser partir sans lui dire au revoir. Non ?»
Le visage de l'oncle Vernon trahissait une furieuse agitation. L'idée de recevoir une leçon de politesse de la part d'un homme qui venait de dévaster la moitié de son salon lui causait de toute évidence une souffrance cuisante. Mais M. Wesley avait toujours sa baguette à la main, et les yeux minuscules de l'oncle Vernon s'y posaient un instant avant qu'il se décide à lâcher à contre-cœur intimide.
« Bien, oui. Au revoir. »
« Un de ces jours, » dit Harry en posant un pied dans les flammes vertes qui dégageaient une agréable tiédeur. À cet instant, un horrible hoquet retentit derrière lui et la tante Pétunia poussa un hurlement.
Oh!
Harry fit aussitôt volte-face. Dudley n'était plus derrière ses parents. À genoux, près de la table basse, il suffoquait, crachait, étouffait, tandis qu'une horrible chose gluante et violacée de 30 centimètres de long pendait de sa bouche. Harry, stupéfait, s'aperçut qu'il s'agissait tout simplement de la langue de Dudley et qu'un des papiers aux vives couleurs qui enveloppaient les pralines était tombé par terre devant lui. La tante Pétunia se précipita vers Dudley. Elle attrapa le bout de sa langue enflée et essaya de l'arracher de sa bouche. Dudley se mit alors à hurler et à crachoter de plus belle en essayant de repousser sa mère. L'oncle Vernon, pris de panique, agitait les bras et vociférait si fort que M. Wesley fut obligé de hurler pour se faire entendre.
« Ne vous inquiétez pas ! Je vais arranger ça ! Ah !»
Mais la tante Pétunia poussa des cris plus perçants que jamais et se jeta sur Dudley pour le protéger de son corps.
« Allons, voyons, hein ?» dit M. Wesley d'un ton désespéré. « C'est un simple phénomène de... C'est à cause de la praline, quoi. Mon fils, Fred, c'est un vrai farceur. Il s'agit simplement d'un sortilège d'engorgement. C'est du moins ce que je crois. Laissez-moi faire, je peux tout arranger. »
Loin d'être rassurés, les Dursley avaient l'air de plus en plus terrorisés et la tante Pétunia poussait des sanglots hystériques en tirant sur la langue de Dudley comme si elle voulait à tout prix l'arracher. Dudley étouffait sous l'effet conjugué des efforts de sa mère et du volume de sa langue qui ne cessait de grandir. L'oncle Vernon, quant à lui, avait perdu le contrôle de ses nerfs. Il attrapa une figurine en porcelaine posée sur le buffet et la jeta de toutes ses forces à la tête de M. Wesley qui se baissa à temps. L'objet poursuivit sa course et se fracassa dans la cheminée dévastée.
« Allons, voyons !» répéta M. Wesley avec colère en brandissant sa baguette magique. « J'essaie au contraire de vous aider !»
Meuglant comme un hippopotame blessé, l'oncle Vernon saisit un autre objet décoratif.
« Harry, vas-y, allez !»
s'écria M. Wesley, sa baguette pointée sur l'oncle Vernon. « Je vais arranger ça !» Harry ne voulait pas être privé du spectacle, mais la deuxième figurine que lança l'oncle Vernon lui frôla l'oreille et il estima préférable de laisser M. Wesley dénouer seul la situation. Il s'avança dans les flammes et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en annonçant « Le terrier !»
Il eut encore le temps d'apercevoir M. Wesley qui faisait exploser entre les mains de l'oncle Vernon une troisième figurine de porcelaine et la tante Pétunia, toujours allongée sur son fils, qui ne cessait de hurler tandis que la langue de Dudley serpentait hors de sa bouche comme un grand piton gluant. Un instant plus tard, Harry se mit à tournoyer sur lui-même de plus en plus vite et le salon des Dursley disparut dans un tourbillon de flammes vertes comme l'émeraude.